Salut, moi c'est Guillaume Haché. Bienvenue dans 70 minutes avec. Après des épisodes plutôt intenses avec Hugues Daillet, Julie Daché ou encore Frédéric Chardon, cette semaine un épisode un peu plus light. Je suis allé au Parlement de la Fédération Wallonne et Bruxelles et j'ai rencontré Barbara Tracht, qui est chef de groupe écolo. On a parlé d'enseignement, puisque c'est sa spécialité, et cet épisode s'inscrit donc un petit peu dans la continuité des discussions que j'avais pu avoir avec Nicolas Roland, Charlotte Bellière ou encore Jérôme Collin. Enfin, on parle aussi des élections fédérales qui ont lieu récemment. Autrement dit, si vous nous écoutez depuis l'étranger, c'est un épisode qui est peut-être très belgo-belge dans cette thématique, mais rassurez-vous, les prochains épisodes devraient compenser. Let's go! Nous sommes aujourd'hui au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec Madame Barbara Tracht. Barbara Tracht, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de groupe écolo au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous suivez particulièrement les dossiers liés à l'enseignement, aux droits des enfants et à la place des enfants dans les villes. Mm-hmm. Première question, on vous sent particulièrement attaché aux questions liées à l'enseignement. Comment ça se fait? Comment est-ce que vous expliquez ça?
C'est à la fois, c'est une combinaison entre mon histoire, hein, mon passé, et puis j'ai envie de dire des coïncidences ou des aléas. Mon passé parce que en fait j'ai commencé à m'intéresser à la politique dans les années 90. Il y a eu des grandes grèves dans l'enseignement alors que j'étais moi-même élève à l'école secondaire. Et donc la question qui m'a amenée à m'intéresser à la politique, c'est vraiment la question des politiques d'enseignement et de l'impact des mesures d'austérité qui étaient adoptées à l'époque, hein, dans les années 90, et qui avaient un impact sur les écoles. C'est la première question politique qui m'a intéressée, j'ai envie de dire personnellement ou spontanément. Avant ça, je vivais dans une famille que la politique intéressait globalement, mais c'était, disons, plus à l'initiative de mes parents qu'à mon initiative personnelle. Donc, vraiment, la première question politique qui m'a intéressée personnellement, c'était la question des politiques d'enseignement. Ensuite, suite à ces grèves, au retour dans les écoles, malheureusement, à la suite de ces grèves, j'ai voulu comprendre comment le monde politique fonctionnait. C'est comme ça que j'ai commencé des études de droit. Je suis devenue ensuite avocate et j'ai travaillé de nouveau sur les questions d'enseignement puisque je travaillais dans un cabinet qui défendait notamment la communauté française. Et puis je suis devenue députée et à ce moment-là, une place s'est libérée ici au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, au sein de mon groupe, hein, puisque tous les députés bruxellois ne sont pas députés à la Fédération Wallonie-Bruxelles. On est 19 sur les 72 à être quelque part délégués, les délégués bruxellois au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et il y avait une place disponible au sein du groupe écolo. Quand je suis arrivée ici, il y avait une place disponible au sein de la commission enseignement. Donc voilà, c'est à la fois mon histoire et voilà, des hasards, des coïncidences.
D'une part, un intérêt personnel et d'autre part, le fait que la place était dispo.
Voilà,
en fait. C'est
ouais.
Ça. Ok. Et donc, est-ce qu'il y a, je dirais, dans votre parcours d'élève bruxelloise ici en secondaire à Schaerbeek, une frustration dans la façon dont vous avez été, vous avez connu l'enseignement ici, ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitiez réformer, changer, voir évoluer, ou bien est-ce que vous étiez finalement assez contente de votre parcours en tant qu'élève? Dans les invités que j'ai eu dans ce podcast, il y a ceux qui adoraient l'école,
oui.
Et il y a ceux qui la détestent brutalement. On est généralement pas trop neutre, oui. soit on aime bien, soit on déteste. Vous étiez laquelle, vous?
Moi, j'ai adoré. J'ai adoré l'école. Et je trouve que, enfin, je souhaiterais que tous les enfants et tous les adolescents puissent bénéficier de la scolarité. Non, moi, j'ai bénéficié. Pas le même parcours, mais la même bienveillance et le même intérêt. Et surtout, le plaisir d'apprendre qui m'a été inculqué très tôt. Donc, j'ai eu la chance d'être en primaire dans une école à pédagogie active où très tôt j'ai appris l'autonomie et le plaisir d'apprendre. Très
une
tôt.
École à pédagogie active, oui. Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, les pédagogies actives, il y a plusieurs écoles, hein, enfin oui, plusieurs écoles, mais donc plusieurs courants.
Mmh, ouais, ouais.
Il y a notamment Freinet, Montessori qui est
c'est
aujourd'hui de plus en plus à la mode.
Donc c'était alors dans l'enseignement privé?
Non, c'était dans l'enseignement libre subventionné, donc dans une école catholique.
D'accord. Oui.
Mais il y a des écoles officielles qui pratiquent les pédagogies actives depuis fort longtemps, hein, y compris ici à Bruxelles, à Clairvivre notamment, à Evere. C'est une école communale à pédagogie active depuis très très longtemps. Mais donc l'idée des pédagogies actives, c'est d'apprendre assez vite aux enfants l'autonomie et de laisser assez vite les enfants apprendre par eux-mêmes, hein, de leur donner les différentes possibilités, les différents outils qui sont disponibles dans la classe pour apprendre, de pratiquer aussi beaucoup les interactions entre pairs. Mais alors, entre pairs, ce n'est pas nécessairement des enfants du même âge, c'est aussi être mélangé avec des enfants plus jeunes ou plus âgés et des enfants qui vont enseigner et apprendre en même temps. Donc les plus âgés vont apprendre aux plus jeunes, ceux qui sont plus avancés vont apprendre à ceux qui sont moins avancés. Donc c'est vraiment une méthode d'enseignement qui est moins frontale, c'est moins l'enseignant qui déverse son savoir à tous les élèves en même temps. C'est beaucoup plus les élèves qui sont occupés à des ateliers, qui s'occupent par eux-mêmes et qui sont eux-mêmes responsables de leur évolution. Donc c'est très...
Et donc vous êtes très, très contente, très, très satisfaite de votre parcours en pédagogie active. Oui. Et vous dites, vous aimeriez que tout le monde puisse connaître un parcours similaire.
Oui, donc, ben oui, parce que...
Donc c'est l'exemple à suivre finalement pour le reste des courants.
Je ne pense pas que ce soit nécessairement généralisable parce qu'il y a des contre-exemples. Dans ma famille même, je connais des enfants auxquels ça a moins bien réussi. Ça a très bien réussi avec moi et ça a très bien réussi avec plein d'enfants. Et je pense que ça a un potentiel d'épanouissement très, très grand. Et j'aimerais bien que beaucoup plus d'enfants puissent en bénéficier. Je ne sais pas s'il faut nécessairement généraliser ça à tout le monde parce qu'en fait, je pense qu'il y a... Il n'y a pas de pédagogie type qui va fonctionner avec tout le monde, hein, que ce soit des pédagogies plus traditionnelles ou les pédagogies actives ou même les méthodes de lecture dont on parle régulièrement. Je ne pense pas qu'il y a une méthode qui soit la bonne pour tout le monde. Mais en tout cas, dans les pédagogies actives, il y a vraiment, je trouve, par rapport à l'évolution de la société et par rapport au plaisir d'apprendre, vraiment des enseignements à en tirer pour tout le monde.
Une valeur ajoutée.
Et je trouve que, voilà, surtout dans le monde dans lequel on vit, où les savoirs évoluent très fort et se multiplient de plus en plus, tout savoir, ce sera impossible. Mmh. Par contre, avoir le plaisir d'apprendre, la curiosité et savoir quelque part se débrouiller, je pense que c'est vraiment des capacités essentielles.
Et donc actuellement, ces écoles-là sont très minoritaires dans le parc des... dans les réseaux d'enseignement ici en Belgique, c'est très minoritaire finalement. Donc vous aimeriez voir une expansion de la pédagogie active.
Oui, c'est minoritaire, mais ça l'est de moins en moins. De plus en plus, notamment en raison de l'essor démographique ici à Bruxelles, il y a de plus en plus d'écoles qui se créent et de plus en plus d'écoles à pédagogie active. Et il y a de nombreuses écoles aussi qui se convertissent, si j'ose dire, hein, qui se transforment. Dans des réseaux. Oui, il y en a donc des écoles qui se créent. Je pense par exemple, pour parler de Scarbé, que je connais bien, il y a une nouvelle école qui s'appelle l'École Neuve, qui va ouvrir là en septembre, une école communale qui sera à pédagogie active. Mais il y a une autre école qui est l'École 16, qui est aussi une école communale, qui était une école à pédagogie plus traditionnelle, qui devient une école à pédagogie active. Mmh. Et puis il y a de plus en plus d'enseignants qui, sans être nécessairement dans une école entièrement à pédagogie active, qui pratiquent des pédagogies actives dans leur classe. Il y a d'autres écoles, pour citer d'autres réseaux, par exemple l'école du Tivoli à Laeken, qui est une école de la ville de Bruxelles, est aussi une école qui a évolué vers les pédagogies actives.
Ces exemples d'écoles autrefois plus traditionnelles qui deviennent aujourd'hui des écoles à pédagogie active, je trouve ça très intéressant, puisque moi j'ai justement ce cliché en tête de l'enseignement très conservateur, très inerte, où j'étais en interview avec Alexandre De Croo il y a un an, et il parlait de l'école en disant... Mais, est-ce que l'école a évolué par rapport à il y a 30 ans? Finalement, assez peu.
Oui.
Donc là, vous me donnez des exemples d'écoles où on se dit, ben non, on jette tout par la fenêtre, ou presque, et on repart sur un nouveau modèle.
Oui, donc c'est tout à fait porteur d'espoir. Je trouve globalement que notre enseignement fonctionne même plus qu'il y a 30 ans. J'ai envie de dire qu'il y a plus de... La société a fort évolué, les familles ont fort évolué, le rapport à la connaissance, surtout avec l'apparition du numérique, est en train d'évoluer très très fort, et l'école évolue très peu. Mais en effet, il y a certaines écoles, et de plus en plus, et je m'en réjouis, et dans tous les réseaux, donc c'est plus le cliché des écoles à pédagogie active qui sont uniquement des écoles privées ou des écoles de la FELSI, hein, donc des écoles libres. Non, il y a aussi des écoles de l'enseignement officiel qui se tournent vers les pédagogies actives, et je trouve que c'est vraiment positif. Et en tout cas, c'est quelque chose que nous, on essaye à chaque fois, les écologistes, hein, dans les communes, de pousser le plus possible. Ou de soutenir d'une manière ou d'une autre, quand ce sont des écoles libres, d'essayer de leur faciliter la vie pour qu'elles puissent s'ouvrir.
Mmh, yes. Sur le plan de l'enseignement, la Belgique se caractérise, se différencie de nos voisins par son approche très décentralisée. Mmh. On fonctionne sur trois réseaux, trois communautés. Et en conséquence, il y a plus de la moitié des élèves francophones qui vont dans l'enseignement catholique. Mm-hmm. Vous aviez introduit, c'était en 2015, il me semble, donc il y a 4 ans déjà, un décret au sein du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour examiner la haute proportion d'exemples sexistes dans les manuels scolaires.
Oui.
Où est-ce que ça en est aujourd'hui?
Alors, c'est aussi très, très, c'est une réponse qui est un peu triste pour moi d'apporter. C'est que ce décret qu'on avait déposé avec ma collègue Hélène Reckmans, il a été voté. Donc, l'idée, c'était de dire que avant de recevoir un agrément, parce que les manuels scolaires, en fait, les enseignants peuvent utiliser les manuels qu'ils souhaitent. On est dans un modèle très libéral par rapport à cela. Mais certains manuels reçoivent un agrément, c'est-à-dire que la communauté française y appose un cachet. Et quand il y a ce cachet, ben non seulement il atteste du fait que ce manuel répond au socle de compétences et à ce qui est attendu des élèves à un certain niveau, donc il correspond à ce qu'on attend dans les écoles à certaines années. Mais en outre, ça permet aux écoles d'obtenir des financements complémentaires pour acquérir ces manuels-là. Les manuels scolaires qui sont agréés, ben, ils reviennent moins cher à l'achat pour les écoles et pour les enseignants. Et donc nous, on avait dit qu'au moment d'examiner, de mettre en œuvre cette procédure d'agrément, on avait ajouté un critère qui était celui de vérifier qu'il n'y avait pas de stéréotypes sexistes véhiculés par les manuels. Et c'est très important parce que des études, il y en a de nombreuses, ont démontré que dans les manuels scolaires, y compris les manuels scolaires agréés, il y a des stéréotypes sexistes. Énorme, je veux dire, n'importe qui peut ouvrir le manuel et s'en rendre compte. Je veux dire, les exemples qui sont donnés dans les études, c'est à pleurer, quoi. Je veux dire, on voit le papa qui nettoie la voiture pendant que maman fait la cuisine, quoi. Et on demande de conjuguer ou de, enfin voilà, à partir d'exemples comme ceux-là.
Oui, on imagine bien. Et puis des exemples de personnages historiques, des exemples de célébrités. Sont... Oui. Très majoritairement des hommes.
Oui, mais là, c'est même un peu... Mais je veux dire, basiquement, les exemples, les exemples sont assez terrifiants. Donc, il y avait un travail à faire évident. Et donc, on a réussi à faire adopter ce décret. On était très contents. Et il y a un mois et demi, deux mois, donc au mois, en mars, la ministre a déposé sur la table un décret qui supprime cette procédure d'agrément. Hein, procédure d'agrément n'existera plus. Et ben, le critère qu'on avait ajouté a disparu avec l'eau du bain, si j'ose dire.
C'est ça, voilà.
On nous assure que, bien sûr, les éditeurs vont faire attention. Mais bon, pendant 50 ans, ils ont fait attention et les études ont démontré que ça ne suffisait pas. Donc moi, j'espère que la législature qui vient, là, celle qui commence, on va pouvoir quand même mettre en place un filtre comme celui-là parce que c'est indispensable.
Oui. Mais donc, cette approche libérale dont vous parlez, elle est assez emblématique de la façon dont l'enseignement est organisé ici en Belgique. Est-ce que vous êtes satisfaite de cette approche ou finalement on laisse les écoles décider quel livre ils utilisent, on laisse les éditeurs décider ce qu'ils choisissent de publier ou non et s'ils veulent l'approbation de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou non? Ou bien est-ce que vous êtes plutôt de ceux et de celles qui désirent une approche plus ferme où on contrôle un peu, on prend un peu plus les choses en main? Est-ce que vous êtes satisfaite de l'approche actuelle?
Moi, je suis ni pour un État super centralisateur qui contrôle tout et qui dirige tout, ni pour une société complètement dérégulée. Et donc, je vois bien que en matière d'enseignement, je l'observe, les écoles qui fonctionnent bien, celles qui permettent notamment à des enfants défavorisés ou qui ont le plus de difficultés par rapport aux apprentissages à évoluer, ce sont des écoles qui se sont mises en projet et qui ont choisi leur projet. Pas des projets qui leur sont imposés, ce sont des projets d'équipes pédagogiques qui ont décidé entre elles de réfléchir, de faire des constats par rapport à leur manière de travailler, au public qu'elles accueillent, et de mettre en œuvre des pédagogies ou des méthodes qui correspondent à ce public et qui correspondent aussi à leurs aspirations. C'est comme ça que ça marche. Les écoles qui fonctionnent bien, c'est comme ça que ça marche. Mais donc c'est difficile d'imposer la même chose à tout le monde quand on fait ce constat-là. Ceci dit, on peut pas non plus tout laisser faire et sans intervenir, parce qu'on voit bien que un des gros problèmes de notre système scolaire, c'est les inégalités. Et ça, on peut pas, c'est inacceptable. Je veux dire, sociétalement, d'ailleurs, c'est la communauté française qui finance. C'est normal qu'elle régule. Mais donc moi, je trouvais que la procédure d'agrément des manuels scolaires, elle n'était pas mauvaise. On est dans un système libéral. Oui, les enseignants peuvent choisir les méthodes et les manuels qu'ils souhaitent. Mais on leur dit que ben, ces manuels-là, ben, ils correspondent un peu mieux quand même au socle de compétences qui sont attendus de toutes les écoles. Parce que c'est quand même normal que la Fédération Wallonie-Bruxelles dise à tel niveau, il faut avoir atteint tel niveau.
Les établissements restent libres de dire, moi je m'en fous, je veux mon livre sexiste.
Il y a la question des moyens qui était liée à ça, qui est une question cruciale pour les écoles. Donc, je veux dire, le fait d'obtenir des moyens pour des manuels scolaires agréés, c'est en soi déjà une bonne manière de les inciter à prendre ceux-là et pas d'autres. Donc, moi, je trouvais, et par ailleurs, la liberté, le revers de la médaille, c'est aussi que quand on se retrouve dans une société complètement dérégulée ou avec un marché du livre scolaire qui est tellement large comme celui qu'on connaît aujourd'hui, on a parfois aussi d'autres choses à faire que d'aller examiner chaque manuel scolaire et voir lequel correspond le mieux. Alors, je trouvais que le système de l'agrément, ça permettait une forme de régulation liée notamment à la question du financement, puisque quand... seuls les manuels agréés étaient financés, et en même temps une forme de liberté. Je trouvais que c'était un bon équilibre.
Cet héritage, disons, sexiste de ces manuels scolaires, est-ce que vous le mettez en lien avec le caractère religieux de la majorité des écoles ici en Belgique, ou est-ce que...
Non, pas spécialement. Je veux dire, je le mets en lien avec la société, globalement. Une société qui a été façonnée par des années d'histoire dans laquelle la religion avait une place importante. Donc, je veux dire, en soi... Il n'y a pas plus de sexisme dans les manuels scolaires, dans les écoles catholiques, que dans les manuels scolaires, dans les... Voilà. Et globalement, il y a du sexisme dans l'ensemble de la société, qu'elle soit laïque ou catholique. Je dirais, il y a un problème qui concerne tout le monde.
Suite à... la vague verte qu'on a connue il y a quelques semaines. École est en bonne position pour sortir de l'opposition à Bruxelles, en Wallonie et à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Comment se passent les négociations à ce stade? Quelle majorité est-ce que vous espérez voir se dégager au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles?
Donc aujourd'hui, on est à une semaine des élections. À ce stade, c'est assez calme. Le roi a désigné des informateurs et par ailleurs, au niveau des régions, le Parti socialiste, qui est le premier parti, qui a donc la main, consulte les différents partis. Donc à ce stade, on n'est pas en négociation. À ce stade, on est reçu par les uns et les autres. Mais effectivement, notre souhait, quand on fait de la politique, c'est de changer la société.
Oui. Mais... vos espoirs, vos analyses, vous attendez à faire partie de la majorité?
Moi, j'espère. Je dis, c'est à ça qu'on travaille. C'est à ça qu'on a travaillé pendant 5 ans quand on était dans l'opposition. Le but, c'est de changer la société. C'est pour ça qu'on fait de la politique, et on la change mieux quand on est dans un gouvernement que quand on est en dehors. Moi, je serais vraiment très triste que le résultat de ces élections, surtout quand on les a gagnées, et puis quand on a vécu aussi 5 années dans l'opposition un peu difficile, j'espère qu'on va aller en majorité.
Et dans ce cas-là, le poste du ministère de l'Enseignement pose question. Est-ce que vous êtes candidate au poste de ministre de l'Enseignement, ou est-ce que vous êtes parfaitement OK avec l'idée que Mme Marie-Martine Schinz reprenne son rôle?
À ce stade, ce que j'espère, c'est qu'on sera en majorité, et je vais me donner à fond pour qu'on puisse être en majorité et négocier un bon accord, y compris en matière d'enseignement, où il y a beaucoup de choses à faire aussi avec les acteurs de l'enseignement d'ailleurs, qui ont travaillé la législature passée. À titre personnel, je n'ai pas aujourd'hui d'autres ambitions que celle-là. On verra bien.
Ministérielle ou autre.
On verra à la fin des négociations. Moi, je souhaite qu'on négocie. Je veux vraiment me donner à fond pour qu'on fasse, pour qu'on ait de bonnes négociations et puis qu'on puisse obtenir.
J'ai bien compris que les choses étaient encore très floues à ce stade. Mais dans ce cas-là, au sujet de la dernière administration, la dernière législature. Quel regard est-ce que vous portez sur ce pacte pour un enseignement d'excellence qui était souvent très critiqué, je dirais rarement bien compris, je pense que souvent on l'a critiqué sans l'avoir lu. Quel regard est-ce que vous portez sur ce pacte?
Moi, je pense que c'est indispensable de faire une grande réforme de l'enseignement.
Je pense que tout le monde politique est d'accord pour dire ça.
Oui, mais même c'était pas en 2014, c'était juste avant les élections. Il y a un peu plus que 5 ans maintenant. Des acteurs de la société civile nous l'avaient demandé. La plateforme de lutte contre l'échec scolaire, qui rassemble des parents, des chercheurs, des associations, nous avait dit, écoutez, ça ne peut plus continuer comme ça. Il y a trop d'inégalités et il n'y a pas assez de plaisir d'enseigner et de plaisir d'apprendre. Et donc, il faut une grande réforme de l'enseignement. Et nous avait demandé une grande réforme qui passe au-delà, qui perdure au-delà des législatures, parce qu'on ne réforme pas l'enseignement en 5 ans. Il faut plus que 5 ans. C'est ça que la majorité qui s'est mise en place après 2014 a entamé sous l'égide de ce qu'ils ont appelé le pacte d'excellence. Alors nous, on ne l'aurait pas appelé comme ça. Je trouve que c'est pas le...
C'est très américain comme nom.
Et puis, je trouve que par rapport à l'ambition de donner le plaisir d'apprendre et même de lutter contre les inégalités, c'est pas le terme idéal. Nous, on aurait préféré qu'on parle d'émancipation, par exemple, ou de plaisir d'apprendre... Oui, je trouve l'idée de plaisir d'apprendre et le fait qu'on donne aux enfants cette curiosité, cette envie est plus intéressante que l'excellence où on parle, enfin, quand on entend excellence, on entend résultats mesurables. Enfin, je trouve que c'est pas. Ça. Voilà, mais bon, voilà, c'est le terme qu'ils ont choisi. Ils ont aussi choisi une méthode qui n'aurait pas. Nous, on aurait choisi une autre méthode. Je trouve qu'il y a quand même une difficulté avec les enseignants chacun dans leur classe, en fait. Hein, ce processus, même si il est moins top-down qu'avant, puisque des représentants des réseaux, des syndicats, des associations de parents, etc., ont été impliqués, ça reste quand même un processus qui s'est passé à huis clos, avec des personnes qui sont des délégués et qui sont quelque part assez loin des personnes qu'elles représentent. Et donc, dans chaque classe, il y a effectivement beaucoup d'enseignants qui ne comprennent pas très bien ce qu'il y a dans le pacte d'excellence et en quoi ça peut améliorer leur quotidien, leur manière d'enseigner et finalement le futur de leurs élèves. Donc, il y a eu un problème, me semble-t-il, en termes d'appropriation et de participation des enseignants au processus. Et enfin, il fallait aussi... Bon, c'était crucial, impliquer l'opposition, parce que si on veut faire perdurer ces réformes au-delà de la législature, sauf à penser qu'un parti ou deux partis se maintiennent au pouvoir ad vitam aeternam, mieux valu impliquer l'opposition. Maintenant, un travail a été fait et il est hors de question de le jeter à la poubelle. Je pense que ce serait le pire. Ce sera encore pire. Je veux dire, le statu quo, c'est juste impossible. Donc maintenant, des réformes sont mises en place. Il va falloir les adapter. Hein. Il y a certainement, il y a des adaptations qui sont déjà aujourd'hui criantes, hein, même si le rapport date maintenant d'il y a un peu plus de 2 ans, presque 3 ans. L'avis numéro 3, celui qui est la base des réformes en cours, il manque par exemple la pénurie des enseignants. On parle Le PAC ne parle pas de la pénurie des enseignants. Or, c'est le problème majeur que vivent les écoles aujourd'hui. On manque d'enseignants. Donc, il y a des adaptations. Il faut faire participer les enseignants, ce qui n'a pas été fait la législature passée. Et puis, tous les aspects sur la bienveillance et le plaisir d'apprendre doivent être beaucoup plus développés.
D'accord. Et donc, les points sur lesquels on a le plus communiqué au sujet de ce pacte, ce sont par exemple des choses comme la suppression du redoublement, le latin obligatoire jusqu'en troisième secondaire, donc le fameux tronc commun. Tout ça sont des points que vous ne souhaiteriez pas réformer, enfin adapter.
Alors, l'interdiction du redoublement, il n'y en a pas. Le pacte ne prévoit pas d'interdiction du redoublement.
Oui, on en a beaucoup parlé, mais
oui.
Fake news.
Le redoublement va être régulé différemment, et donc il va devoir être mieux motivé par les enseignants et expliqué aux parents, mais il n'est pas du tout interdit. Ceci dit, moi, je trouve que ce n'est pas une bonne chose, le redoublement. Ce n'est pas une méthode pédagogique qui est efficace globalement. Je veux dire, les études l'ont prouvé. Maintenant, je ne pense pas qu'on supprime le redoublement en disant qu'il est interdit. Je veux dire, ça, c'est pas, en fait, au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en adoptant des décrets, que c'est pas en faisant comme cela qu'on arrive à des résultats. Au contraire, il faut donner aux enseignants, à la base, dans chaque classe, les méthodes pour pouvoir ne pas y avoir recours, en fait. Et donc, c'est pas le top-down, en fait, qui mettra fin au redoublement. Au contraire, c'est vraiment dans chaque classe et auprès de chacun enseignant qu'on doit trouver les méthodes, donner les outils pour l'éviter. Et ça, je pense, l'histoire des réformes de l'enseignement en Belgique francophone le démontre à foison. C'est pas au Parlement c'est assez inutile, quoi. Si au Parlement on décide, comme ça a été le cas il y a quelques années, de supprimer le redoublement en première secondaire, qu'est-ce qu'on a vu? Énormément d'enfants doublés à la fin de la deuxième secondaire. Donc, je veux dire, ce genre de décision, je pense et j'espère qu'on a compris que c'était pas comme ça qu'il fallait les prendre.
Donc, si demain le CDH n'est pas dans la majorité, mais qu'Écolo s'y trouve, on va garder beaucoup d'aspects, beaucoup de points qui ont été travaillés dans cette réforme. Le plan du numérique, par exemple.
Oui.
C'est flou à ce stade, on ne comprend pas très bien comment le numérique sera intégré. On parle parfois de cours de programmation, on parle parfois de bring your own device, d'amener les tablettes dans les classes, etc. Oui. Enfin, ça part un peu dans tous les sens. Oui. Quel est votre point de vue, votre approche de la présence du numérique dans les écoles?
Sur le numérique dans le pack d'excellence, il y a un grand plan, etc., mais je le trouve très décevant.
D'accord.
Je trouve que... En fait, il se passe une chose majeure avec le numérique qui n'est pas tellement liée aux outils. Je trouve que le PACS parle beaucoup des outils. Je ne dis pas que ce n'est pas une question importante, mais le numérique va modifier fondamentalement le rapport des êtres humains à la connaissance, au savoir, à l'information, au monde. Fondamentalement. On va vers un monde complètement neuf. Et je rends hommage d'ailleurs à Michel Serres qui vient de décéder. Qui a, malgré son grand âge, analysé cela de manière, me semble-t-il, très juste et très optimiste. Ce qu'il dit, c'est que, de la même manière que l'apparition de l'écriture a modifié le rapport des êtres humains au savoir, ou l'apparition de l'imprimerie, le numérique va aussi profondément modifier notre rapport au monde et notre manière de penser. On le voit, hein, ma génération qui n'était pas une génération du numérique et qui a appris le numérique en cours de route, je vois bien que j'utilise mon cerveau différemment d'avant. Je veux dire, l'exemple des numéros de téléphone, par exemple, je trouve tout à fait parlant. Je me souviens du numéro de téléphone de mes grands-parents, un fixe, mais je ne connais pas le numéro de téléphone de mon compagnon.
Je me souviens quand moi j'étais à l'école et que mon prof de maths m'expliquait qu'on n'aurait pas de calculatrice dans notre poche pendant toute notre vie.
Mais donc... on voit bien comme on est déjà aujourd'hui totalement perdu quand on n'a pas son téléphone avec soi, parce qu'on y stocke une partie des choses qu'on n'y stockait pas avant, c'est-à-dire qu'on stockait dans son cerveau avant, ou la manière dont on fixe des rendez-vous, la manière dont on appréhende la géographie ou le, je veux dire.
Et donc l'espace. Vis-à-vis de l'école, comment est-ce qu'il faut adapter l'école?
Mais donc moi je pense que c'est vraiment pas simple. Je pense qu'on est en plein dans cette révolution numérique et que ça va prendre du temps, en fait, de se rendre compte du changement dans lequel on est et de voir...
Il serait temps, quand même.
Mais je veux dire, une modification aussi importante du rapport au savoir, je pense que ça, il n'y a pas déjà aujourd'hui une formule idéale où on peut dire « Ah oui, mais si on fait ça, alors c'est bon, les enfants demain seront dans la...
Voilà. » La solution n'est peut-être pas claire, mais le constat, le fait que le rapport a changé, je pense que...
Mais ça, je ne le dis pas dans le pacte d'excellence, par exemple. Et donc, je ne dis pas qu'on peut trouver aujourd'hui la solution miracle pour tous, et je ne m'attends pas à ce que le pacte d'excellence le fasse, parce que je pense que c'est compliqué et que ça va prendre du temps, mais qu'il n'y ait pas déjà l'amorce de la réflexion, le constat et l'amorce de la réflexion par rapport à ça, ça me déçoit terriblement. Et je trouve, pour ce que j'ai pu en étudier jusqu'ici, c'est une question qui me passionne, qu'il y a quand même dans certaines pédagogies, et notamment dans les pédagogies actives, quand même déjà des éléments de réponse. Et ces éléments de réponse ne passent pas nécessairement par l'utilisation du numérique, en fait. J'ai vu des pédagogies, par exemple, avec des jeux de cartes, où on inculque aux élèves ce qui sera finalement une forme de curiosité ou d'autogestion qui leur sera très utile dans un monde numérique. Je ne pense pas nécessairement que l'apprentissage du monde numérique ou l'apprentissage de la vie ou de la vie professionnelle dans un monde numérique passe nécessairement par un tableau blanc interactif, quoi. voilà, je pense que, mais je pense que voilà, dans certaines pédagogies, il y a déjà aujourd'hui, ou dans dans les cours de codage certainement, mais là on est vraiment dans du numérique pur, il y a déjà des éléments de réponse qui permettent d'amener les élèves de demain à se débrouiller dans un monde où la connaissance évolue tout le temps et où l'accès à la connaissance est très aisé, très facile et à portée de...
Et donc vous seriez favorable à l'implémentation de cours de programmation, de cours de codage au sein des écoles ?
Oui, je serais favorable à. Mais je ne pense pas. Je pense pas que ce soit nécessaire pour entrer dans le numérique. Je pense qu'on peut. Je pense que c'est intéressant, c'est formateur. C'est un autre langage, hein, comme le latin en fait. Hein. Oui. Et donc c'est intéressant de former son esprit à ça. Mais je pense pas que les élèves qui n'auraient pas eu de cours de codage, ils seront perdus dans le monde du numérique.
Ça ne doit pas être la seule approche. Mais oui, effectivement, on avait reçu dans cette émission il y a un peu plus d'un an Nicolas Roland, qui est donc chercheur en sciences de l'éducation à l'Université libre de Bruxelles, et qui faisait le constat effectivement que on avait investi fortement en termes de moyens, en tout cas au sein de la région bruxelloise, dans les tableaux blancs interactifs, en se disant ben voilà. La révolution numérique, elle est faite. On a mis des tableaux blancs interactifs dans les écoles, en se posant finalement assez peu la question de l'approche, de la pédagogie et des savoir-faire vis-à-vis du numérique. Donc vous faites le même constat. Un autre point dont on parle souvent avec le pacte d'excellence, et je m'en voudrais de ne pas le mentionner, la proximité entre le CDH qui est à la tête de ce pacte d'excellence. Et la firme de consulting McKinsey.
Oui.
Un commentaire à faire là-dessus ?
Oui, c'est une question qui m'a beaucoup fait travailler au début de la législature. Ce qui m'a le plus interpellée, c'est la manière dont effectivement McKinsey a été choisi pour accompagner le processus, qui s'est fait. Bon, pour le coup, c'est pas moi qui le dis, mais c'est la Cour des comptes de manière. Je veux dire, le marché public a grosso modo été taillé sur mesure pour McKinsey et a enfreint un certain nombre de règles relatives au marché public. C'est, voilà, pour le coup, on a demandé à la Cour des comptes de faire un audit de cela et ça a été clairement établi par la Cour des comptes. Donc les conditions dans lesquelles McKinsey est intervenu dans le cadre du pacte d'excellence sont illégales en fait. Hein,
oui.
Donc
y a pas... et ce qui se dit, c'est qu'il y a des proximités entre la tête de McKinsey et Joël Milken.
C'est ce qui peut se dire. Moi, je ne porte pas de jugement par rapport
non,
à ça.
Non, c'est sûr.
Mais ce que j'ai constaté et que la Cour des comptes a constaté, c'est cela, c'est que le marché public qui a été lancé a été taillé sur mesure pour ce consultant-là. Il n'était pas permis à un autre consultant. Alors, quand on fait un marché public, normalement, on permet à d'autres sociétés de. Enfin, on lance un appel et tous ceux qui veulent peuvent y répondre. Il se trouve que les autres concurrents, puisqu'il y en avait d'autres, leur offre était un. On ne pouvait pas la comparer à celle de McKinsey, puisque McKinsey se faisait financer largement, de manière à offrir beaucoup plus de services à la communauté française pour le même prix, se faisait financer par des fondations extérieures. Ce qui m'interpelle parce qu'il me semble que quand on parle d'enseignement et de définition des politiques d'enseignement, on est au cœur des politiques de l'État. On parle de l'avenir de nos enfants. Et il me semble que ce sont des politiques qui sont publiques et qui doivent être financées entièrement par le public. Donc ça, je pense que c'était un énorme problème.
Oui. Et ce qui frappe aussi, c'est que quand on discute avec les agents, les personnes qui participent à l'écriture de ce pacte, l'implication de McKinsey est toujours un petit peu... on sait très bien que c'est le cas, mais systématiquement, on a l'impression qu'ils le renient, qu'ils font semblant que ce n'est pas le cas. C'est très, y a quelque chose de très...
Moi, je trouve, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que ça fait partie de la méthodologie de dire qu'ils faisaient des négociations du pacte d'excellence à huis clos. Moi, ce que j'entends, c'est que McKinsey était là au début, hein, lors de la phase de diagnostic, et puis n'a plus du tout été présent. Et de ce que j'entends, de ce qui m'est rapporté, ils étaient discrets. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Je n'en sais pas plus que ce qui est.
Un point qui est un petit peu curieux quand on compare la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Flandre, c'est que l'enseignement est divisé en deux chez nous. On a d'une part le ministère de l'enseignement obligatoire et d'autre part le ministère de l'enseignement supérieur, alors qu'en Flandre, il y a un super ministère qui gère tout. Et ça pose question quand, par exemple, on parle de réforme de l'enseignement, d'insérer le numérique dans l'enseignement et qu'on a, d'une part, une ministre de l'enseignement obligatoire CDH, un ministre de l'enseignement supérieur PS et un troisième ministre à la région wallonne et région bruxelloise pour la logistique qui, dans le cas de la région wallonne, était MR. Est-ce que ça vous semble le bon système de diviser l'enseignement en deux ministères ?
J'ai envie de dire d'abord qu'on a déjà fait pire, puisqu'il y a eu une époque où l'enseignement était lui-même, il y avait l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire avec deux ministres différents.
Ouais, effectivement.
Je trouve que c'est pas du tout une question facile. Moi, dans les dossiers que je suis plus les questions relatives à la petite enfance. Je trouve aussi qu'il y a un gros problème de continuité entre les milieux d'accueil, donc les crèches, et l'école. Idéalement, pour moi, il faudrait plus de continuité entre l'un et l'autre, et donc ça pourrait se traduire par un même ministre qui serait le ministre de l'enfance et le ministre de l'enseignement. Donc on peut toujours être frustré des découpages parce qu'ils sont illogiques si on s'intéresse à l'une ou l'autre continuité. Donc en soi que les deux ministres soient différents, ça me choque pas nécessairement. Par contre, ce qui n'est pas acceptable, c'est de ne pas travailler à la transition. Mmh. Et donc, c'est pas acceptable, comme on l'a vu cette législature-ci, par exemple, qu'on travaille au pacte d'excellence et donc à la réforme des écoles d'un côté, et on travaille à la réforme de la formation initiale des enseignants, donc aux études pour devenir enseignant, au sein du cabinet et du ministère de l'enseignement supérieur, sans vraiment se parler.
C'est ça.
Et qu'il faille, au moment où on arrive au Parlement, dire « Ah tiens, mais en fait, ça ne correspond pas. La réforme de la formation initiale ne correspond pas. » Ça, c'est inacceptable. Le problème, ce n'est pas tellement qu'il y ait des ministres différents, mais c'est le manque de continuité dans le même gouvernement.
Oui. Et donc, la solution à ce moment-là, c'est de bien faire les choses au moment de la formation du gouvernement, et c'est tout ?
Et que les ministres parlent un peu, et pas chacun pour soi.
Ça, en Belgique, c'est compliqué.
Oui. Oui, c'est compliqué. Ben, donc, moi, j'espère, et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Faut dire aussi que l'entente entre le PS et le CDH, ça n'a pas été excellente au cours de cette législature, puisqu'il y a eu cet événement, et que ça n'a pas facilité les choses. Pendant des mois et des mois, ils ne se sont plus parlé, ils se voyaient au Parlement pour s'engueuler. Donc ça n'a pas aidé. Donc il faut espérer. Enfin, je trouve que la cohésion au sein d'un gouvernement, le fait de former une équipe, est très importante.
Vous vous étiez fait remarquer il y a quelques mois au moment du vote sur le décret concernant les écoles d'ASPA. Mmh. Vous aviez alors introduit plusieurs amendements et vous vous étiez abstenu lors du vote final, puisque vous jugiez que certains points vous posaient encore problème. J'aimerais qu'on revienne là-dessus un instant. C'est un dossier que vous suivez de près. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire des élèves, entre guillemets, les élèves d'ASPA, qui sont non alphabétisés ?
Ouais.
Puisque actuellement, on sait que ces élèves-là, quand ils arrivent au sein des écoles d'ASPA, sont trop jeunes pour entrer en formation adulte. On ne les met pas dans le spécialisé, on les met dans le circuit traditionnel. Quelle solution ?
Oui. Donc les classes d'ASPA sont des classes d'accueil pour primo-arrivants. Donc quand ils arrivent en Belgique, ils sont accueillis dans des classes spécifiques où on va insister sur l'apprentissage du français. Ça existe dans le primaire, ça existe dans le secondaire. Il y a effectivement un énorme... Donc c'est une question qui me préoccupe beaucoup. On a d'ailleurs fait adopter ici au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles une résolution sur le fait d'avoir une Fédération Wallonie-Bruxelles hospitalière. Et donc c'est important pour nous de pouvoir accueillir tous les enfants. L'objectif, c'est de les amener le plus vite possible à rejoindre des enfants qui habitent ici depuis plus longtemps et qui maîtrisent le français suffisamment pour être dans l'enseignement ordinaire. Alors pour les plus jeunes, ça va, même quand ils, enfin ça va. Je veux dire, voilà, c'est pas évident et c'est sûr que quand ils arrivent à 10, 11, 12 ans sans être alphabétisés, il y a énormément de travail à faire. Mais à ces âges-là, il y a encore beaucoup d'espoir par rapport à leur futur. Dans le secondaire, donc les non-alphabétisés dans le secondaire, dont vous parliez il y a un instant, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est sûr qu'un an de DASPA, puisqu'aujourd'hui c'est ça qui est prévu, un an de classe dans ces classes d'accueil primo-arrivants, ça peut être un petit peu prolongé, mais enfin, grosso modo, un an et demi, c'est insuffisant pour des élèves qui ont 14, 15 ans, 16 ans. qui sont en obligation scolaire, hein, donc ils arrivent en Belgique, ils sont soumis à l'obligation scolaire, quelle que soit leur nationalité, et heureusement. Hein, c'est le... et après un an et demi, on doit les rediriger quelque part, alors que c'est sûr que c'est pas en un an et demi, à 14-15 ans, qu'on leur apprend et le français, et à lire et à écrire. Donc là, il y a une grosse, grosse difficulté par rapport à ces adolescents-là, ils sont grands à cet âge-là. Moi, je pense qu'effectivement, les mettre dans l'enseignement spécialisé ou dans l'enseignement en troisième professionnel, ce qui est le cas aujourd'hui, ça ne va pas du tout. En fait, on attend. En fait, grosso modo, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est attendre qu'ils aient 18 ans pour ne plus qu'ils soient en obligation scolaire et qu'ils puissent alors passer dans des circuits plus classiques d'alphabétisation. Bon, ça, c'est un peu absurde. Moi, je pense qu'on doit être généreux avec ces enfants-là, avec ces jeunes-là. Et qu'il faut leur permettre immédiatement de continuer à bénéficier, comme ils en ont bénéficié pendant le temps où ils étaient dans les DASPA, de cet accompagnement spécifique. Et je veux dire, tant qu'ils n'ont pas 18 ans, ils sont en obligation scolaire. Donc notre société espère qu'ils vont pouvoir encore apprendre. Et donc moi, je n'aime vraiment pas du tout qu'on les mette en troisième professionnel pour attendre qu'ils aient 18 ans et qu'ils quittent l'école. Donc je trouve qu'il faut trouver des accompagnements spécifiques pour qu'ils puissent continuer à apprendre à lire et à écrire. Je pense que c'est vraiment indispensable pour tout le monde. Et ça prend plus qu'un an, un an et demi. Et apprendre suffisamment le français pour après essayer de trouver la formation qui leur correspond.
Oui. Donc à ce stade, le nombre d'élèves non alphabétisés en école d'ASPA, ça représente un chiffre important ?
Je pourrais pas l'évaluer.
Est-ce que c'est très anecdotique ou bien est-ce que c'est récurrent ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit souvent ?
Oui, il y en a beaucoup. Mm-hmm. Il y en a beaucoup et des écoles à Bruxelles qui en connaissent beaucoup et qui en accueillent beaucoup et qui me disent que si elles avaient le double des classes qu'elles ont, ces classes seraient remplies. Oui, il y en a. Donc c'est un nombre significatif. Oui. Et en tout cas, assez significatif pour qu'on fasse un parcours spécifique pour eux.
D'accord. Et actuellement, ça n'est pas encore le cas ?
Non. Mais donc, il y a ce parcours d'ASPA qui dure un an et demi. Et puis après...
C'est ça. Et c'est quelque chose que vous aimeriez réformer, que vous aimeriez
voir changer ? Certainement. Oui, c'est sûr. Si on s'intéresse aux questions d'enseignement, c'est pour que chaque enfant, chaque élève, chaque adolescent ait la possibilité de s'ouvrir des horizons. Hein. Et donc, ça vaut globalement, mais ça vaut pour chacun d'entre eux.
Un mot à présent sur la laïcité au sein des écoles. En Belgique, en Belgique francophone, dans l'écrasante majorité des écoles, donc on parle de 95% des écoles, on ne peut pas porter le voile islamique au nom de la laïcité, enfin au nom du règlement intérieur de chaque école, qui peut décider à sa guise si elle autorise ou non le port du voile. Mm-hmm. Mais une fois passé le seuil de la porte, on a droit à des cours de religion et à des crucifix accrochés au mur. Quelle est la position des colos vis-à-vis de la place du religieux dans les écoles?
Oui. Donc la position d'écolo est que la religion a encore sa place aujourd'hui à l'école, et donc on n'est pas pour la suppression de ces cours. Par contre, ce qu'on estimait essentiel, c'était que les enfants puissent, les enfants et les élèves, puissent aborder tous ensemble la question des différents courants religieux, et aussi de la philosophie de la citoyenneté. Et donc on est heureux qu'au cours de cette législature, on ait pu avancer dans cette direction-là avec la création de ce cours d'éducation à la philosophie et la citoyenneté.
Ça, c'est juste pour le réseau officiel, si je ne dis pas de bêtises.
Donc le cours a été... Donc, il y a une petite spécificité un peu curieuse et aussi typiquement belge. C'est qu'effectivement, dans le cours est, si vous voulez, les référentiels du cours sont obligatoires pour tous les élèves. Mmh. Mais le cours en tant que tel, aujourd'hui, ne doit être organisé que dans l'enseignement officiel, à raison d'une heure par semaine. L'enseignement libre peut l'enseigner transversalement à travers tous ces cours. Et donc là, nous, on trouve que tous les élèves, que tous les élèves devraient pouvoir bénéficier de ce cours, quel que soit le réseau auquel ils sont affiliés.
D'accord. Donc ça, c'est pour la question du cours de citoyenneté. Mmh. J'aimerais revenir sur l'espèce de contradiction que je pointais, hein, cette idée qu'on interdit le port du voile au nom de la laïcité, mais on a un enseignement qui est fondamentalement religieux, en tout cas dans la majorité des cas. Est-ce que vous n'y voyez pas une contradiction ?
Oui, mais donc nous, sur la question du port de cimes convictionnelles, on estime que avant, oui, il y a une forme de contradiction, c'est sûr. Mais donc, mais on estime que avant un certain âge, il faut protéger les enfants et avoir des règles qui soient similaires pour tout le monde. Et donc, nous, on estime que jusqu'à un certain âge, on ne doit pas accepter dans les écoles le port de signes convictionnels. Mais à partir d'un certain âge, d'un âge de discernement, de raison, les élèves ont le droit d'avoir des convictions et dans la liberté d'avoir des convictions, il y a la liberté d'avoir des convictions dans sa tête. Il y a aussi la liberté de les exprimer. Hein, et les exprimer, c'est aussi dans la manière dont on est habillé. Et donc, on estime qu'à partir d'un certain âge, on devrait permettre, mais ça devrait être une règle valable dans toutes les écoles, on devrait permettre aux élèves de pouvoir porter des signes convictionnels s'ils le souhaitent. Ça n'est pas, ça ne peut pas être une excuse ensuite pour ne pas assister à certains cours, par exemple, mais on estime qu'à partir d'un certain âge, les élèves ont le droit d'avoir des convictions et devraient avoir le droit aussi de les exprimer.
C'est là qu'on voit que la définition du mot laïcité varie très très fort entre les différents intervenants. On avait dans ce podcast Nadia Gertz il y a quelques mois.
Oui.
Voilà, apparemment vous la connaissez.
Oui.
Et donc clairement, le sens du mot laïcité n'est pas le même dans sa bouche et dans la vôtre.
Oui, c'est évident.
C'est évident. Vous ne voulez pas aller plus loin ?
Moi, je... Oui. Non, je ne veux pas sur cette histoire-là.
Oui, on sent que le sujet de la laïcité est un petit peu un champ de mine pour les politiciens et
Pour
écolo, dans cette campagne en particulier.
Je trouve qu'on vit dans une société où les différentes religions peuvent s'exprimer. Donc j'ai pas de, je pense que la neutralité de l'État d'une part et par ailleurs la diversité des convictions que peuvent avoir les citoyens, elles s'expriment. Je pense pas qu'il y ait nécessairement de gros problèmes en fait.
Mmh.
Mais alors, on peut avoir des combats doctrinaux sur la laïcité, la définition de la laïcité, la neutralité. Est-ce qu'il faut l'inscrire dans la Constitution ? Moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que des choses se passent et des choses évoluent, mais de manière relativement harmonieuse, en fait. Hein. Mmh. Donc, il y a bien sûr des heurts et bien sûr qu'il y a des demandes fortes par rapport à certains secteurs. Mais je trouve qu'en Belgique, on a quand même l'occasion de se parler et que des choses évoluent.
J'aimerais, puisqu'on parle de l'espace d'un instant, et on va passer à autre chose après, mais puisqu'on parle de l'espace d'un instant, la question de la laïcité, de la neutralité, Écolo Croon, au Conseil communal, déclarait il y a un an ou deux, au nom de ce principe de neutralité que vous utilisez comme instrument de discrimination et de stigmatisation d'une certaine communauté, vous bafouez la dignité de ces femmes. Donc il y a apparemment, dans la définition de la laïcité et de la neutralité chez Écolo, cette idée qu'elle est utilisée comme une arme pour discriminer certaines communautés.
Je pense que, si je me souviens bien, cet épisode, on parlait là de femmes qui souhaitaient avoir accès à l'enseignement de promotion sociale. Donc on parlait de femmes adultes. Il y a des règlements d'ordre intérieur de promotion sociale qui interdisent le port de signes convictionnels. Alors qu'on parle d'enseignement pour des adultes, là, je pense qu'il y a une énorme contradiction. L'enseignement de promotion sociale, c'est l'enseignement de l'émancipation, de la deuxième chance. On a des personnes adultes qu'on souhaite émanciper, hein, qu'on souhaite qu'elles puissent s'émanciper, et parce qu'elles portent le foulard, en fait, on les en rejette. On les rejette de cet enseignement. Donc il y a une contradiction énorme qui a donné lieu à la phrase que vous avez donnée, à laquelle je souscris pleinement. Ça ne va pas de dire à la fois que les femmes qui porteraient le foulard, il faudrait qu'elles s'émancipent, mais en même temps leur fermer la porte des institutions de promotion sociale. C'est complètement absurde. En plus, là, on parle clairement d'adultes. Moi aussi, ça me révolte, en fait, ce genre de décision.
Ouais.
Donc j'aurais pu tenir les propos qui ont été tenus à l'époque.
Un petit mot également sur cette histoire de tract en fin de campagne électorale. C'était il y a quelques semaines ici à Bruxelles. Donc un tract électoral qui a été distribué au nord-ouest de Bruxelles, là où la communauté musulmane est très représentée. Un tract qui reprenait des éléments de langage du style l'abattage d'animaux sans étourdissement, le port du foulard, enfin des éléments très caractériel de la communauté musulmane, en résumant finalement cet électorat-là aux questions religieuses. Les réactions au sein d'Écolo, j'ai cru remarquer, étaient assez diverses, puisque voilà, je me souviens d'un tweet de Gilles Vandenburg qui condamnait fermement ce tract. Et puis finalement, la personne qui est à l'origine de ce tract, Zoé Genneau, l'assume finalement pleinement.
Non, elle l'a retiré. Hein.
Donc, elle l'a retiré, mais elle...
Moi, je veux dire, les réactions étaient unanimes par rapport à ce tract. Ce n'est ni notre manière de faire de la politique, ni par ailleurs, on n'a pas. Dans ce tract, il y avait des simplifications extrêmes de la manière dont on aborde ces questions-là, qui sont des questions complexes, enfin, je veux dire, et qui soulèvent des réactions passionnelles importantes. Et je le comprends. Enfin, je veux dire, sont des sujets importants et qui touchent les personnes, donc qui méritent d'être abordés avec les nuances nécessaires. Donc, on n'a pas l'habitude de s'adresser à une communauté en particulier. On a l'intention de faire de la politique pour tout le monde. On n'a pas non plus l'habitude de s'adresser aux gens de cette manière-là. Donc le tract, dès qu'il a été connu, il a été demandé qu'il soit retiré. Et les auteurs de ce tract, parce que ce n'était pas un tract collectif, c'était une initiative de deux candidats, il a été retiré.
Fin de l'histoire ?
Oui, fin de l'histoire. Oui, les choses ont été claires par rapport à ce tract.
Ce qui frappait également dans le cadre de ce tract, c'est que le bien-être animal est une cause que défend Écolo depuis longtemps, et on le voit à présent, en tout cas au sein de ce tract, défendre l'idée qu'il faut défendre l'abattage sans étourdissement. Et puis finalement non, finalement on retire, et finalement quand même si, une position très floue, alors que du côté de chez Kroon, leur position est parfaitement claire, on condamne l'abattage sans étourdissement.
C'est pour ça que je dis simplification à l'extrême, parce que ce qui était mis dans le tract sur ce tract par rapport à cette question-là ne correspond pas à la réalité. En Wallonie, il y a eu un décret qui concernait le bien-être animal, l'ensemble du bien-être animal, et pas uniquement la question de sa mort, hein, parce que le bien-être animal, on l'espère, concerne l'ensemble de la vie des animaux et pas uniquement la manière dont on les tue. Et donc, ce décret a été soutenu par les écologistes.
En Wallonie, oui.
En Wallonie, oui.
Là où il y a peut-être un public musulman moins important.
C'est là que le décret a été déposé sur la table. Et pas, c'était pas une initiative des écologistes, c'est une initiative des autres. Donc le décret a été déposé sur la table en Wallonie. À Bruxelles, ce que nous avons dit, mais pas seulement nous, c'est que ce décret, le décret dont on parle, il est aujourd'hui attaqué à la Cour constitutionnelle. Il fait l'objet de recours. Donc on attend simplement de savoir quel est le résultat de ces recours pour voir quelle législation adopter à Bruxelles par rapport à cette question. C'est simplement là qu'on en est aujourd'hui.
Et donc vous rejetez toutes les accusations d'électoralisme, de cette ambiguïté, le fait que le décret n'a pas encore été passé à Bruxelles, c'est en raison d'une présence importante d'un électorat musulman ?
Là, il y a une prudence de la part d'Écolo et aussi des autres partis par rapport au fait que la législation qui a été adoptée en Wallonie est effectivement en recours à la Cour constitutionnelle. C'est une question de prudence.
Encore un mot sur les élections, puisqu'on parlait de la campagne. Je parlais à présent du résultat des élections fédérales. Les électorats diffèrent évidemment selon les partis, et on a pu lire de nombreux articles mettant en avant le fait que l'électorat écolo-croon était particulièrement diplômé, lettré, alors qu'en revanche, celui du Vlaams Belang, qui lui aussi a fort monté dimanche dernier, l'est beaucoup moins. Comment est-ce que vous expliquez cette ascension soudaine du Vlaams Belang ?
Je pense qu'il va falloir vraiment beaucoup y réfléchir. Parce que c'est terrifiant. Mais en même temps, ça vient juste d'arriver. Donc je pense qu'il va falloir effectivement analyser de manière très approfondie d'où vient cet électorat. Quels sont les partis finalement qui ont pâti de cette montée du Vlaams Belang ? Et quelles sont les causes profondes ? Est-ce que, alors moi j'en vois plusieurs, mais je trouve qu'il faut les analyser. Bon, il y a certainement la politique menée par le gouvernement fédéral précédent, et je trouve que plusieurs lignes rouges ont été franchies, qui m'avaient choqué comme démocrate. Hein, je veux dire, quand on parle des migrants en utilisant des termes comme nettoyer, je pense que c'est grave, je pense que c'est très grave, et ça me choque d'autant plus que vos auditeurs ne le voient sans doute pas, mais je suis d'origine rwandaise et voilà, je trouve que déshumaniser des personnes, c'est extrêmement grave. C'est quelque chose qui m'interpelle très fort. À d'autres situations, comme on se souvient de Theo Franken qui avait refusé de se soumettre à une décision de justice. Ça s'est porté atteinte de manière directe à l'état de droit. Hein. L'état de droit, ça veut dire que le droit s'applique à tout le monde, y compris et en particulier aux personnes qui représentent l'État, et donc en l'occurrence à des ministres ou à d'autres mandataires politiques. Donc là, il y a quand même des lignes rouges qui ont été franchies par le gouvernement fédéral précédent. Et quand on peut dire cela à la tête de l'État, il n'y a pas de raison de ne pas le penser dans sa tête quand on est un simple citoyen, ou de pousser Vlaams Belang dans l'isoloir, ou voter Vlaams Belang dans l'isoloir quand on en a l'occasion.
La première raison que vous mettez en avant, alors, c'est la politique, ouais, dernier gouvernement.
Après, on parle beaucoup de la campagne qu'a menée Vlaams Belang sur les réseaux sociaux. On sait qu'il se passe des choses sur les réseaux sociaux et que ça a des influences sur la réalité. On l'a vu au cours de la législature avec toutes les questions de complotisme, par exemple. On l'a vu avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Et là, il y a certainement un champ, semble-t-il, hein, puisque moi, je n'ai pas encore analysé ça de près. Le Vlaams Belang a, semble-t-il, fait fort appel à ce type de campagne sur Internet très, très ciblé.
Plus de 700 000 euros dépensés en campagne Facebook sur leur page, sur la page du président, etc.
J'imagine ciblée, voilà.
Oui, mais pour vous donner une idée, même moi j'en ai vu une sur Instagram et quand je cliquais sur le petit bouton « Pourquoi est-ce que je vois cette pub ?», elle me disait « Vous êtes un homme, vous vivez à Bruxelles ».
Ah ouais.
Donc, et quand on utilise des critères aussi faibles que ça, il faut payer cher pour compenser, pour être sûr que le public visé le voit. Clairement, il y a un budget, on le voit, hein, les comptes ont été publiés, plus de 700 000 euros dépensés. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu à ce moment-là un phénomène semblable du côté francophone, une montée de l'extrême droite ?
C'est une bonne question, je m'interroge depuis une semaine là-dessus. Et pourquoi aussi on n'a pas vu venir ? Parce qu'on n'a pas senti, ni même mes collègues de Groen avec lesquels je parle régulièrement, cette montée en puissance si forte. Du Vlaams Belang, qu'est-ce qui nous en prémunit? Moi, je refuse de dire que ça ne nous arrivera jamais. Ça peut arriver aussi en Belgique francophone. Et donc, je continue de penser que, en matière d'enseignement, certainement, d'éducation aux médias, ce sont des enjeux cruciaux pour demain. Et en termes d'éducation aux médias, alors on a de la chance que ça ne soit pas arrivé ici en Belgique francophone, mais il y a du travail à faire. Hein. Oui. Je lis, parce que cette question numérique m'intéresse beaucoup, la question de l'éducation aux médias, suite aux attentats, hein, on y a quand même travaillé. La question du complotisme, etc. Mais on n'est nulle part en Fédération Wallonie-Bruxelles sur l'éducation aux médias, que ce soit vis-à-vis des jeunes ou même des adultes ou des personnes plus âgées. Je lisais récemment un article qui disait que des personnes âgées relayent plus des fake news sur les réseaux sociaux que des jeunes. Alors que, voilà, on s'imagine qu'avec les cours de critique historique qu'ils ont pu avoir à l'époque, etc., ils devraient en être prémunis ou leur expérience de l'importance des médias, de ce que c'est être un journaliste, etc., ils devraient moins relayer des fake news que les jeunes. On constate que ce n'est pas le cas. Donc, en termes d'éducation aux médias, pour les jeunes, mais aussi pour les adultes, c'est aussi le rôle du média de service public, hein, de faire de l'éducation aux médias. Il y a un champ énorme.
Ouais. Donc, c'est assez grave, puisqu'on sait que c'est un phénomène qui gangrène, entre guillemets, tout l'Occident et qui touche les jeunes, les plus âgés, tout le monde. Vous nous dites, ici, en Fédération de Bruxelles... Pas de solution.
Non, je le déplore.
Oui.
Le gouvernement a adopté, mais à l'époque c'était encore Madame Milquet, un plan de lutte contre le radicalisme où on parlait de montée en puissance de l'éducation aux médias et on n'a rien vu venir. Hein. L'éducation aux médias en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est 1 euro par an, par enfant, point. Je veux dire, on n'est nulle part en termes d'éducation aux médias. Et là-dessus aussi, on parlait tout à l'heure du numérique. Je ne pense pas nécessairement que l'éducation aux médias passe par l'utilisation des médias numériques, mais elle passe aussi par l'utilisation des médias numériques, mais pas uniquement. Mais on est, il y a un champ de travail pour la législature qui vient qui est énorme.
Très bien. Enfin, très bien, non, très mal. C'est déplorable, effectivement. Au niveau de la formation du gouvernement, est-ce qu'une solution est possible pour un gouvernement fédéral ou bien est-ce que vous faites partie de ceux et celles qui estiment que on est parti pour 541 jours sans gouvernement, éventuellement un retour aux urnes après?
C'est vraiment très très difficile à dire. J'espère qu'on va trouver des solutions, mais c'est très compliqué.
Ouais.
Très compliqué.
Oui, très compliqué, c'est sûr. Donc vous n'êtes pas opposé, par exemple, à une formation avec... Oui, vous êtes opposé à une formation avec l'ANVA, avec le Vlaamse Belang.
C'est certain.
Vous maintenez vos exclusives, même si on imaginait un discours beaucoup plus social de la part de la NVA, un changement de discours.
S'ils deviennent écologistes, il n'y a pas de souci. Nos programmes sont vraiment très, très, très éloignés. Il faudrait des pas
oui.
importants pour aller dans cette direction. Mais pour revenir peut-être sur la question de ce qui s'est passé en Flandre et de ce qui va pouvoir se passer demain, on ne peut pas... Du fait que voilà, le Vlaamse Belang a monté en Flandre et qu'on n'a pas d'extrême droite en Wallonie ou à Bruxelles, puisque ça vaut aussi en fait pour les Flamands de Bruxelles. Hein. Les Flamands de Bruxelles, c'est très différent le résultat des néerlandophones à Bruxelles du résultat des Flamands en Flandre. Moi, je pense qu'il va falloir travailler beaucoup plus ensemble. Il faudrait pas qu'on dise que les francophones n'ont pas d'extrême droite pour parler moins avec les Flamands. Et si on tient à la Belgique et si on pense que c'est intéressant d'avoir encore un pays en commun, il faut travailler plus ensemble. Donc nous, on travaille régulièrement avec Groen.
La solution du confédéralisme, ça n'est pas la vôtre.
Ah non, certainement pas. Ah. Non. Mais même quand j'entends régulièrement, depuis une semaine, qu'on dit on n'ira plus à la mer, par exemple, je trouve que c'est une mauvaise idée. Je veux dire, si on veut que la Belgique continue, si on trouve que c'est une bonne idée de continuer à travailler flamands et francophones ensemble, il faut se parler. Hein.
Oui, on fait le jeu de l'extrême droite si on arrête de se parler, ça c'est certain. Et puisqu'on parle de se parler, de maintenir une Belgique unie, on parlait avec Gilles Van Den Burg de l'idée de faire une circonscription fédérale et de voter à Arlon pour les Flamands, à Ostende pour les Wallons. Je pose la question parce que je n'ai pas réussi à trouver une réponse, mais est-ce que c'est un article de la Constitution qui a été ouvert à la révision ou pas du tout?
Malheureusement, non.
Non, donc c'est foutu.
Il y a eu très peu d'ouvertures d'articles. Non, donc ça, hélas, ce ne sera pas possible. Par contre, ce qu'on a fait là, au cours de cette campagne, c'est ce qu'on a appelé des candidats Erasmus, c'est-à-dire que, en fait, on peut être candidat à la Chambre sans habiter la circonscription. Puisque la Chambre couvre l'ensemble de la Belgique, donc on peut être candidat dans une circonscription où on n'habite pas. Et donc on a accueilli sur nos listes en Wallonie des candidats Groen, et Groen a accueilli en Flandre des candidats écolos sur ses listes. Donc
Ce qui fonctionne bien pour Écolo Groen, puisque vous êtes relativement contre la personnalisation des programmes, et effectivement là, ça fonctionne bien dans ce cadre-là. Très bien, mais par rapport à Tract, on arrive au bout des 70 minutes ensemble. Je vous remercie
pour
le temps qu'on a passé ensemble.
Merci beaucoup.
Et chers éditeurs, on se retrouve dans 2 semaines. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. C'était donc le 3e épisode que je publie en 15 jours, histoire de coller un petit peu à l'actualité. C'est beaucoup. Je vous avoue que je suis très content de retrouver enfin le rythme habituel. Pour ne pas manquer les prochains épisodes de 70 minutes avec, n'oubliez pas de suivre l'émission sur les réseaux sociaux et de vous abonner au podcast. J'ai mis tous les liens dans la description. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions d'invités ou vos retours, ça m'aide énormément. On se retrouve dans 2 semaines. Salut !